Bonjour et bienvenue à chacun et à chacune ce matin en ce lieu. Ce matin, vous avez été accueillis, et surtout les femmes, par un verset qui leur a été donné sur une petite carte. Pas spécialement parce que c'est la fête des mères aujourd'hui. Il est vrai que notre société a pris l'habitude de fêter les mamans, les grand-mères depuis peu longtemps. Et puis, j'ai entendu même dans certains magasins qu'ils fêtaient aujourd'hui la fête des mères et des filles. Autant vous dire que ce sont des magasins assez féminins. Alors, à toute femme, bonne fête aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse, et à tous les hommes, comme les femmes sont mères, c'est grâce aux hommes qui sont pères, nous voulons aujourd'hui fêter à tous une bonne journée, un bon culte devant le Seigneur. Et ce matin, c'est notre Père Céleste qui nous accueille, celui qui a fait de nous ses enfants. Si ce matin, donc, nous avons accueilli spécialement les femmes, c'est parce que c'est le groupe de dames qui se réunit le jeudi matin, qui a préparé ce culte pour nous tous. Ce matin, mesdames, vous avez trouvé la référence d'un verset que Janie a eu à cœur de confectionner, ces cartes, et de vous inscrire pour le partager avec vous. Alors, il vous sera possible de le lire dans vos Bibles, et même de le lire à haute voix tout à l'heure dans le temps de prière. Et si vous avez envie, ou si vous n'avez pas votre application super efficace sur votre portable, qui est en silencieux, vous pouvez éventuellement attraper une Bible au fond de la salle pour noter votre verset, puisqu'il n'y a que la référence sur votre petite carte. Mais pour commencer ce culte, je vous invite à vous lever, et nous dirons à notre Père que nous venons ensemble, frères et sœurs, dans sa maison. Nous venons ensemble dans sa présence pour le louer et lui rendre gloire et nous mettre à son écoute. Chantons.
Triompher suivre tes pas. Chaque jour. Chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant.
Marthe reçoit Jésus dans sa maison. Dialogue entre Marthe et Marie. Il va venir dans ma maison et je vais préparer pour lui le vin et le miel à foison. Et toi, tu m'aideras, Marie.
Non, ma sœur Marthe, je t'en prie. S'il vient nous voir, s'il vient ici, je veux l'écouter nuit et jour raconter son chemin d'amour.
Voyons, Marie, n'insiste pas. En voilà bien du temps perdu. Il faut apprêter le repas. Laissons Lazare avec Jésus.
Non, je veux rester avec lui. Ses paroles ont changé ma vie. Et toi, tu voudrais comme avant que je te donne tout mon temps?
Que t'est-il arrivé, Marie, pour que tu changes ainsi de ton, en écartant de tes soucis tous les travaux de la maison?
Pourquoi te fâcher pour si peu? Je crois que tu ferais bien mieux d'aller t'asseoir auprès de lui. Tu te compliques trop la vie.
Si tu l'aimes autant que tu dis, dépêche-toi de le servir. Tu n'es qu'une fille, Marie. Il est temps de t'en souvenir.
Ceux qui se nourrissent de lois longtemps parleront comme toi. Jésus n'est pas de cet avis. Aujourd'hui même, je l'ai choisi.
Marthe ou Marie, Jésus a aimé ces deux femmes. Mais il dit à Marie qu'elle a choisi la meilleure part, celle qui est nécessaire, se mettre à l'écoute de Dieu. Nous pouvons le faire par la prière. Et ce que nous avons fait le jeudi matin, ce que nous avons étudié ensemble dans sa parole. Ce matin, nous allons vous partager des extraits de ce que nous avons vécu, de ce qui nous a touchés, de ce qui nous est prières qui nous ont interpellés. Et nous voulons que ce temps soit un temps où vous aussi, vous puissiez voir la main de Dieu dans notre vie, mais dans votre vie aussi. Pour ce culte, on m'a demandé de présenter en quelques mots le groupe de dames. Le but n'est pas de vous faire un spot publicitaire de cette activité d'église, car je pense que nos bonhommes de l'église se sentiraient peu concernés et mis de côté. Au travers de ce témoignage, je souhaite vous montrer toute l'importance de vivre sa foi et d'approfondir la communion fraternelle au sein de petits groupes. Ce qui nous rassemble en premier lieu, c'est le Seigneur et notre soif de sa parole. Déjà, c'est une bonne première motivation. Mais on peut faire ça chez soi, me direz-vous. Et je vous répondrai, oui, tous les croyants sont appelés à chercher la présence de Dieu et à méditer sa parole, en commençant par le faire chez soi. Alors, qu'est-ce qui me pousse à aller à ce groupe de dames ? Eh bien, sachez que ce qui m'a touchée, c'est de vivre chaque temps de partage autour de la parole de Dieu, dans l'écoute mutuelle, dans le respect de la foi de l'autre, l'acceptation de ce que l'autre est dans sa fragilité, son caractère, sa personnalité. Une ambiance paisible et bienveillante, le tout couplé à l'authenticité des relations, m'a permis de m'ouvrir à mes sœurs et de leur faire confiance. Au fil des mois, ce groupe m'a montré clairement que vivre sa foi seule, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On a besoin des autres croyants pour grandir dans la maturité spirituelle que le Saint-Esprit veut produire en nous. On a besoin de vivre une forme de complémentarité entre croyants pour pouvoir grandir à l'image de Christ. Et il n'y a pas que dans le groupe de dames qu'on peut vivre cela. On peut aussi le vivre en groupe de maison, par exemple. Vivre sa foi en petit groupe permet de grandir toujours plus en maturité spirituelle, afin de devenir conforme au plan de Dieu pour notre vie. Vivre la communion fraternelle, c'est chercher sans cesse à vivre l'unité dans le corps de Christ et à le faire grandir. Le Seigneur nous donne des moyens pour y arriver, comme intercéder les uns pour les autres, porter les fardeaux des uns des autres, partager les joies et les peines des uns des autres, prendre soin et s'encourager les uns les autres. C'est être en accord et en cohérence avec le commandement divin de l'amour de Dieu. Que notre Père céleste soit pour vous la meilleure des motivations pour grandir dans votre foi, que vous puissiez prendre plaisir à nourrir vos cœurs et vos pensées de lui, seul et en petit groupe. Et c'est maintenant en Église que nous voulons chanter « Ah qu'il est doux pour des sœurs, ah qu'il est doux pour des frères, ah qu'il est doux pour nous tous de demeurer ensemble ». Alors nous sommes des sœurs, des frères, et nous tous, nous pouvons chanter ce chant dont les paroles ont été un peu changées.
Bonjour à vous tous et à chacun, chers amis, chers frères et sœurs. Je fréquente depuis plusieurs années la réunion des dames. Nous y avons étudié la vie de nombreuses femmes de la Bible. Puis nous avons abordé d'autres sujets, entre autres celui brûlant, je dis brûlant, du pardon. En s'appuyant sur des textes bibliques et par la projection du film « Le chemin du pardon », j'ai pu mieux comprendre le sens du pardon et le cheminement à faire. Si nous ne recevrons pas le pardon de Dieu, il nous est impossible de vraiment pardonner aux autres. Il s'agit donc de pardon reçu de Dieu et de pardon donné aux autres. Notre groupe a reçu des bénédictions. Un lien d'amour s'est tissé entre nous, ce qui nous a permis de parler librement de nos problèmes pour en faire part à nos sœurs. J'ai été particulièrement touchée et enrichie. Nous avons ensemble porté ces fardeaux au pied de la croix de Jésus, en priant et en chantant. Le Seigneur a accordé la délivrance à nos sœurs, et tout cela nous a rempli le cœur de joie. La joie qui est un don de Dieu, le deuxième fruit de l'esprit après l'amour. Et sur cette joie qu'il a mis dans nos cœurs, je vous laisse ce verset dans Néhémie 8, chapitre 8, verset 10. La joie de l'Éternel est votre force et notre force. Alors, comme le Père nous pardonne et comme nous pardonnons aussi les uns les autres, nous avons la joie dans le cœur. Et je vous inviterai à chanter ma joie. Vous bondirez de joie.
De pardon, de délivrance et de joie. En réunion de dames, nous avons étudié il y a quelque temps les femmes de la Bible, et cette année, cette étude s'est centrée sur la prière à partir d'un livre intitulé « Dialoguer avec un Dieu d'amour », et cela en 30 leçons. Voilà pourquoi j'ai choisi de vous parler d'une femme de la Bible, car elle est un exemple pour moi, c'est une mère spirituelle. C'est Anne. Anne prie, Anne supplie l'Éternel, et puis Anne loue l'Éternel, car il entend sa voix et répond. Dans nos rencontres régulières de sœurs, nous avons l'occasion, la liberté, Jacqueline en a déjà dit un peu quelque chose, de partager nos joies, nos peines, et donc de nous porter dans la prière. C'est un immense réconfort. Merci à notre Seigneur de nous avoir donné la prière. Merci aussi pour les joies de la communion sororelle ou fraternelle pour d'autres. Tout est grâce. Anne signifie la grâce. Son histoire se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 1. La Bible nous dit qu'elle connaît le chagrin et la douleur, qu'elle est persécutée par une autre femme, sa rivale qui ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu. Mais elle ne s'est pas laissée submerger par l'amertume, elle ne s'est pas révoltée non plus contre Dieu. Elle a tenu ferme, elle avait foi en Dieu. Et elle prie, elle supplie, elle lui ouvre son cœur et dépose toute sa souffrance. On lit dans ce chapitre 1, très affligée, elle pria l'Éternel. Elle priait longuement devant l'Éternel. Elle priait intérieurement ou dans son cœur, dans une autre version. Elle épanchait son cœur devant l'Éternel pour dire toute sa douleur. Et quand Anne reçoit de la part du sacrificateur Élie des paroles de bénédiction pour que Dieu exauce sa requête, elle sait déjà par la foi qu'il l'entend et qu'il va répondre. Et son visage ne fut plus le même. C'est le verset 18 de la version La Colombe. Oui, l'Éternel intervint en sa faveur. Anne, c'est un bel exemple de foi simple, sincère. C'est une femme qui a besoin d'aide et qui prie avec toute persévérance et patience. Oui, on peut tout dire à notre Dieu. Toutes sortes de prières, il nous est dit. On peut répandre son cœur. Il est toujours là près de nous. Il entend chacune de nos prières. Et maintenant, au chapitre 2, elle va exprimer toute sa joie, tout son bonheur, toute sa reconnaissance dans un cantique de louange en l'honneur de l'Éternel. Sa requête est devenue louange. Je vais lire quelques versets de ce cantique. Donc c'est le chapitre 2 de 1 Samuel. La joie remplit mon cœur, c'est grâce à l'Éternel. Oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé. Et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, je jubile, car Dieu m'a secouru. Nul ne l'égale, l'Éternel seul est saint. Et à part lui, il n'y a pas de Dieu. Pas de rocher semblable à notre Dieu. Que cessent donc vos paroles hautaines et les bravades sortant de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. C'est lui qui pèse les actes des humains. Les affamés seront comblés de bien. De la poussière, il arrache le pauvre. Il relève le nécessiteux de la boue. Pour l'installer au milieu des puissants et lui donner une place d'honneur. À l'Éternel sont les fondements de la terre, et sur eux, c'est sur eux qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants périront dans la nuit, car aucun homme n'est vainqueur par la force. Ceux qui contestent contre Dieu sont brisés. Du haut du ciel, il tonnera contre eux. Il jugera les confins de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il élèvera celui qui, de sa part, a reçu l'onction d'huile. J'aimerais juste vous lire un extrait du premier cantique de J'aime, qui sont les paroles du psaume 116 avant qu'on chante ta bienveillance. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel.
De la folie de mes projets. gloire est proche, son règne vient et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, la chose en paix.
Alors, dans la continuité des femmes de foi, des femmes de prière, on va parler de Déborah. Alors, Déborah, elle nous rappelle qu'il y a des combats. Et pour elle, c'était des combats très physiques et très matériels. Pour l'Église, pour chacun d'entre nous, il y a beaucoup de combats spirituels, avec des ennemis nombreux, bien armés et plus forts que nous. Donc Déborah incarne cette femme qui reçoit une parole de Dieu. Par la foi, elle la saisit et elle va aller retransmettre cette parole au chef militaire qui est Barak et lui dire « Voilà, Dieu va livrer Sisera, chef de l'armée de Jabin, entre tes mains. » Humainement, c'était quand même une folie parce que les Israélites étaient peu nombreux, ils n'avaient pas d'armes. Et les Cananéens étaient très bien armés, très nombreux, très entraînés à la guerre. 900 chars de guerre, rien que ça. Mais elle va croire cette parole, elle va la transmettre à Barak, qui va la croire aussi. Donc l'alliance de ces deux personnages, une femme et un homme, une prophétesse et un général, vont faire que le peuple entier va être délivré. Donc ça, c'est beau, parce que quand on se met d'accord avec Dieu et qu'on participe tous ensemble, eh bien, Dieu accorde la victoire. Donc Déborah et Barak vont chanter un cantique de reconnaissance. Parce que là aussi, quand on a la victoire, on peut crier reconnaissance à Dieu. Donc on trouve ce récit, ce chant dans Juges 5. Ce jour-là, Déborah chanta le cantique que voici avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai en l'honneur de l'Éternel, je chanterai en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Éternel, quand tu es sorti de Séir, quand tu t'es avancé, venant des champs d'Édom, la terre a tremblé et le ciel a ruisselé. Les nuages ont déversé leur eau, les montagnes se sont liquéfiées devant l'Éternel, le Sinaï a tremblé devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. À l'époque de Shamgar, fils d'Anath, à l'époque de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force, en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël, le peuple avait choisi de nouveaux dieux. Alors, la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance pour 40 000 hommes en Israël. Mon cœur est avec les chefs d'Israël, avec ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel, vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis et qui marchez sur les routes, chantez. Que de leur voix, du milieu des abreuvoirs, les porteurs d'eau célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son chef en Israël. Alors, le peuple de l'Éternel est descendu vers les portes. « Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, emmène tes prisonniers, fils d'Abinoam. » Alors, un reste du peuple a triomphé des puissants. « L'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. » Du haut du ciel, on a combattu. Depuis leur parcours, les étoiles ont combattu contre Sisera. Le torrent de Kisson les a entraînés, le torrent des temps anciens. Le torrent du Kisson. Mon âme, va de l'avant, sois forte. Que tous tes ennemis disparaissent ainsi, Éternel. Ceux qui l'aiment sont pareils au soleil, quand il paraît dans toute sa force. Vous êtes beau. Parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, avec foi, ils ont été vainqueurs. Et à la suite de cette victoire, ils ont apporté leur reconnaissance. Je vous propose donc, oui, et il faut dire aussi que 40 ans de paix ont succédé à cet acte divin qui était un miracle. 40 ans de paix, ça c'est le bonheur. Donc je vous propose donc, dans cette reconnaissance, de chanter un chant, « En tout temps je le bénirai ». Et je vous propose aussi de faire une offrande avec votre voix, avec vos richesses, et peut-être aussi avec vos richesses matérielles, si vous en avez, si vous voulez participer à la vie de cette Église, à ses actions. Vous pouvez maintenant le faire pendant ce chant, « Au glorifions son nom ».
Quand j'ai crié vers lui, la
Jésus nous promet-il d'exaucer toutes nos prières? C'est l'intitulé d'une des études du livre d'Isabelle Oleknovitch que je vous recommande de lire, qui est fort intéressant et surtout très enrichissant. Oui, Dieu répond à nos prières. Nous l'expérimentons tous, mais pas forcément comme nous l'aurions souhaité. Lorsque l'Éternel demande à Salomon ce qu'il désire qu'il lui accorde, Salomon lui demande la sagesse. Parce que c'est seulement cela qu'il lui demande, Dieu réalise son souhait et lui donne même plus. Si Dieu nous posait la même question, que lui répondrions-nous? Songeons-nous à prier pour notre sainteté, pour plus d'amour, de bonté, de douceur, de foi, de sagesse? Songeons-nous d'abord à prier pour notre prochain qui souffre, pour nos frères et sœurs persécutés, ou sommes-nous uniquement préoccupés de nous-mêmes et de nos proches? La prière n'est pas magique. Elle est une affaire de relation et de juste relation avec notre Seigneur. Prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, mais parler avec Dieu. Ce n'est pas un monologue, mais un dialogue, une relation réciproque. Le Seigneur exauce les prières qui sont selon sa volonté, et seulement celles-là. Jérémie a dit dans Lamentations 3, verset 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » C'est parfois quand on se tait que Dieu parle. Nous aurons maintenant un temps de silence, pendant lequel je lirai un vieux cantique qui s'appelle « Seigneur en silence ». Ensuite, chacun pourra s'exprimer comme il l'entend, soit à haute voix, soit dans le fond de son cœur. Et Seigneur, en silence, je suis devant toi. Ô, rends ta présence sensible à ma foi. Je ne veux connaître aucune autre voix que la tienne, ô Maître, toi seul, parle-moi. Oui, daigne m'instruire et dis tout, Seigneur, ce que tu dois dire à ton serviteur. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, instruis-moi. Montre-moi la route. Seigneur, conduis-moi.
Notre Père qui es aux cieux.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as appelé?
Non, je n'ai appelé personne. Je prie. Notre Père...
Là, tu l'as encore fait.
Qu'est-ce que j'ai fait?
Tu m'as appelé. Tu as dit notre Père. Ben me voici. À qui pensais-tu?
À rien, je prie, c'est tout. Ça me fait du bien alors.
Continue ta prière.
Que ton nom soit sanctifié.
Que voulais-tu dire par là?
Par quoi?
Par que ton nom soit sanctifié.
Très bien. Alors, je voulais dire que... Ben, je sais pas ce que je voulais dire. Ça veut dire quoi?
Mon nom est différent des autres noms. Mon nom est Je suis. Cela ne te dit rien?
Si, si, mais je n'y avais pas pensé avant. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Que fais-tu pour que mon règne vienne?
Ce que je fais moi? Rien du tout. Par contre, si tu venais faire toutes choses ici-bas comme tu les fais là-haut, ça pourrait être bien.
Est-ce que je dirige ta vie?
Je vais à l'église. À Noël. Et à Pâques aussi. J'y vais, quoi.
Mais es-tu sûre de marcher dans les traces de mon fils?
Alors là, Seigneur, écoute, je suis aussi, ou pas plus mauvaise, que ceux qui vont à l'église tous les dimanches.
Mais comment veux-tu que ma volonté s'accomplisse si ceux qui prient ne commencent pas par l'accomplir.
Je sais que j'ai des problèmes.
Moi aussi, je sais.
Toi, tu sais ? Mais alors tu sais que j'aimerais me débarrasser de toutes ces histoires qui m'empêchent vraiment d'être libre ?
Bien, nous avançons. Nous allons travailler ensemble.
Ah non, non, non. Là, ce matin, ça va beaucoup trop loin. Et puis ça prend beaucoup trop de temps. Donne-nous notre pain quotidien.
Me fais-tu confiance pour ce pain ?
Oui.
Prier est un acte dangereux. Tu pourrais finir par être changé, tu sais. Mais tu n'as pas fini avec ta prière. Continue. Eh bien, continue.
Je ne peux pas. J'ai peur.
Tu as peur ?
Oui, je sais très bien ce que tu vas me dire.
Essaie donc. Tu verras.
Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Et Pierre ?
Et voilà. Je savais que tu allais me parler de Pierre. Mais Seigneur, il m'a fait beaucoup trop de mal. Et moi, j'ai juré. J'ai juré de me venger.
Et ta prière ?
Question d'habitude.
Eh bien, tu es franche. Mais ce n'est pas facile de porter la haine en toi, n'est-ce pas ?
Non, ce n'est pas facile. Mais une fois que je me serai vengée, ça ira beaucoup mieux.
Oh ! Ça n'ira pas mieux. Au contraire. Tu es tellement triste au fond de toi. Mais moi, je peux changer tout ça.
Toi, tu peux ? Mais comment ?
Pardonne à Pierre, comme un jour, je t'ai pardonné.
Mais Seigneur, je ne peux pas pardonner à Pierre. Je ne peux pas.
Mais que disais-tu dans ta prière ?
Je pardonne à Pierre. Mais tu pourrais peut-être aller le voir. Je ne sais pas si je te prie tous les soirs.
Ce n'est pas ce qui m'arrête. Finis ta prière.
Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
C'est ce que je ferai. Mais toi, ne fais pas tout pour être tenté. Apprends à vivre dans mon amour.
Car c'est à toi qu'appartiennent, pour les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire.
Que la grâce et la paix t'accompagnent.
Amen.
Alors, je vais vous parler de la communion fraternelle. Quelques réflexions de ma part à ce sujet. Hébreux, je vais citer Hébreux 10, 25. Veillons les uns les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Premièrement, la relation fraternelle. La relation fraternelle, c'est le premier lien de réconciliation entre chrétiens. La fidélité dans la relation. La fidélité dans la relation, c'est pouvoir raconter ensemble. L'amour mutuel doit exister grâce au Christ. Aimer son prochain comme soi-même, sachant ou pas que l'autre ne vous aime pas forcément. Le but de notre relation fraternelle, c'est de grandir en Christ. Tout doit commencer entre croyants. Qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, verset 1. Relation de proximité. Dieu le Fils nous rappelle ses frères et sœurs et il se met à notre niveau. Autrement dit, le lien spirituel est plus puissant que le lien de sang. Partager avec l'autre, je ne peux pas grandir en maturité sans mes frères et sœurs. En effet, mes frères et sœurs vont me compléter pour grandir en Christ. Se frotter aux chrétiens, c'est prendre soin les uns des autres. Mais aussi, reprendre mon frère, ma sœur, pour l'encourager. Rendre compte, partager, confesser. Le but n'est pas de tout raconter à ses frères et sœurs. Faire attention à l'état de maturité de ma sœur ou de mon frère. Prier, chanter, s'entraider sont autant de marques de confiance envers mes sœurs et mes frères. Je vous invite à chanter « Ma richesse, ma gloire ».
Une prédication sur le serment sur la montagne. Nous lisons ce matin Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 24.
Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent.
Nous avons vu il y a 15 jours, dans le passage précédent, qu'il était écrit à plusieurs reprises « Et Dieu, qui est dans le secret, vous le rendra ». Dieu nous appelle à accomplir nos bonnes œuvres dans le secret, sans espérer de récompense. Nous pouvons nous poser la question « Est-ce que j'agirai de la même manière si jamais personne n'en avait connaissance. Et Jésus nous a appelés à analyser nos motivations dans trois domaines: la générosité, la prière et le jeûne. Maintenant, il attire notre attention sur l'argent et par là même nos possessions matérielles. Est-ce que les trésors que l'on amasse sur la terre sont de même nature que celles amassées dans le ciel? Est-ce que ce texte veut dire qu'au lieu de mettre tout l'argent sous mon matelas, dans le bas de laine, dans la boîte à biscuits ou je ne sais où encore, je dois donner tout pour l'œuvre de Dieu et que cela va me permettre d'investir dans le ciel? Certes, cela sera utile pour ceux qui en bénéficieront, pour la croissance de l'Église, et notre offrande en est le signe. Mais cela ne suffit pas. Il nous faut chercher à plaire à Dieu, non seulement en nous montrant généreux, mais aussi en accomplissant ses projets dans notre vie. Et Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que vous assurez un avenir plein d'espérance. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » Cherchant donc la volonté de Dieu, cherchant à obéir à sa parole pour que notre trésor et notre cœur soient au même endroit. Souhaitons-nous que notre trésor disparaisse par les mythes, la rouille, les cambrioleurs? Ou voulons-nous qu'il soit élevé vers le ciel? Jésus nous appelle là à un choix qui nous permettra de vivre d'une façon satisfaite. Et cela, quoi que nous ayons, quoi que nous possédions, quoi que nous n'ayons pas, quoi que nous ne possédions pas. Parce que nous avons placé les valeurs éternelles au-dessus des biens temporaires et terrestres. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Mais dites-moi, quel est l'état de votre œil? Moi, j'ai vu qu'après 40 ans, et beaucoup comme moi, mettre des lunettes pour y voir de près. Ici, dans le texte, l'œil est la lampe. Une lampe est faite pour éclairer. Les chats ont cette capacité d'y voir dans le noir. Mais nous, si l'œil est en bon état, tout notre être jouit de ce qu'il voit. Si l'œil est en mauvais état, mais de quel état s'agit-il? Est-ce de l'œil dont on a parlé au chapitre 5, qui nous a incité à convoiter le bien de l'autre, et cet œil que nous devons arracher et jeter loin de nous? Jésus nous demande d'avoir du discernement, un discernement spirituel, c'est-à-dire discerner ce que Dieu attend de nous, et de voir de la même manière que lui. Mais cette clairvoyance peut être facilement voilée. Nos désirs, nos intérêts, nos objectifs purement égoïstes qui peuvent troubler notre discernement. Et la meilleure façon d'y voir à nouveau clair consiste à lui demander pardon, à lui demander par la prière et par la lecture de la parole de nous éclairer. Et alors il est nécessaire de garder les yeux vers Dieu, d'être ensemble, frères et sœurs, pour nous exhorter les uns les autres, pour nous conduire, nous diriger. Jésus affirme ensuite que nous ne pouvons avoir qu'un seul maître. Nous vivons dans une société matérialiste où bien des gens passent leur vie à gagner, à économiser, mais ils finiront malgré tout par mourir sans pouvoir emporter leur trésor terrestre. Jésus ici oppose les valeurs célestes aux valeurs terrestres, en soulignant que notre loyauté devrait d'abord aller à ce qui ne se flétrit pas, ne peut être volé, ne s'use ni ne s'épuise. Dieu seul mérite d'être notre maître. Même si nous travaillons à amasser des trésors, gardons les yeux fixés sur lui et servons-le lui seul. Comment? En dialoguant avec lui, en ayant confiance, en priant le Père au nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Dans sa parole, nous avons tant d'exemples, et nous en avons vu encore ce matin, de prières, ne serait-ce que dans les psaumes, prières qui nous conduisent dans la repentance, dans la reconnaissance, ou encore dans la louange et l'intercession. Sachons nous mettre à l'écart pour prier seuls, mais recherchons la prière en petits groupes pour nous édifier, et ensemble dans la communauté, que notre prière glorifie le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité envers nous. Veillons et prions pour ne pas tomber en tentation. Prions sans cesse.
Tout uni dans l'Esprit, tout uni en Jésus, tout uni dans l'Esprit, tout uni en Jésus, nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout le monde qu'il nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire à Dieu, Créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux. Gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints.
Ensemble, nous pouvons chanter.